Il est 11 heures, donc on peut ouvrir les hostilités. Donc je vous remercie d'être venu en ces veilles de vacances. Vous êtes tout à fait courageux. Normalement, le grand plaisir et le grand honneur d'avoir comme invité aujourd'hui Madame Agnès Favier, que j'ai eue il y a très longtemps, enfin il y a un certain temps, comme collaboratrice d'abord à Beyrouth et puis ensuite à Machet du Collège de France, et qui a eu des différentes activités depuis. Elle a été entre autres conseillère politique à l'ambassade de France à Ankara, chargée du dossier syrien pendant un certain nombre d'années. Et actuellement, elle dirige un groupe de recherche à l'Institut français, l'Institut européen de Florence, pardon, mon Dieu, lapsus, chargé de, justement, sur la Syrie. Et donc, c'est une des meilleures spécialistes sur le sujet et qui a fait un suivi pratiquement quotidien des affaires syriennes depuis 2011. Et donc, l'objet de sa communication, c'est la Syrie de l'intérieur. Agnès, je te passe la parole.
Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci, professeur Henri Laurence, de me donner l'occasion de revenir dans cette illustre institution où j'ai effectivement passé 2 ans il y a déjà quelques années. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vais vous parler aujourd'hui de la Syrie de l'intérieur. Cette présentation est basée sur des recherches menées depuis 2 ans avec une équipe de chercheurs syriens, principalement, que je dirige à l'Institut universitaire européen de Florence. Et ces recherches sont publiées principalement en anglais et en arabe et sont disponibles toutes sur le site de notre institut au sein d'un programme qui s'appelle Middle East Direction Syria Initiative. Nos recherches sont centrées principalement sur les dynamiques locales du conflit, tant sécuritaire qu'économique, politique et sociale. Et ces dynamiques internes ne peuvent évidemment être dissociées du jeu des puissances régionales et internationales. On rappellera que c'est joué sur le sol syrien, au moins depuis 2013, plusieurs guerres qui ont impliqué l'intervention militaire d'au moins 20 États et de plusieurs milices ou groupes paramilitaires étrangers. Et que la trajectoire de ce conflit a été et reste profondément influencée par des interventions ou des non-interventions d'acteurs régionaux et internationaux. Et je pense que la semaine dernière, vous avez eu une présentation de Mme Khonmani qui a largement insisté sur ces interventions extérieures. Et donc, je ne reviendrai aujourd'hui qu'à la marge pour me concentrer sur les dynamiques du conflit sur le terrain. Et en évoquant ces dynamiques à l'intérieur, nous allons retrouver aussi en filigrane de nombreux facteurs qui expliquent les flux de réfugiés. On a tous les chiffres en tête, près de 6 millions de réfugiés aujourd'hui et de 6 millions de déplacés internes. Donc ces dynamiques à l'intérieur qui expliquent ces flux de réfugiés et qui expliquent aussi leur improbable retour à l'intérieur sur le moyen terme. Donc depuis presque un an, le narratif dominant suggère que le conflit syrien touche à sa fin. D'abord, des accords de désescalade qui ont été signés entre les États-Unis et la Russie en mai 2017, puis des accords locaux qui ont été nommés accords de réconciliation par le régime, par le pouvoir syrien, et accords de reddition par les opposants syriens, accords qui ont désarmé de très nombreuses poches de l'opposition à partir de 2016, ou encore la victoire autoproclamée de la coalition internationale contre l'État islamique en 2017. Tout ça aurait créé les conditions d'une réduction de la violence. Plus encore, les événements militaires de l'année 2018, qui sont le prolongement en fait de l'intervention russe à partir de 2015, ces événements auraient consacré les prémices d'une victoire du régime et de ses alliés russes et iraniens. Et je rappelle que ces derniers contrôlent aujourd'hui plus de 60% du territoire. Vous avez en fond derrière moi cette carte, donc la zone rouge correspond à la zone aujourd'hui contrôlée par le régime et ses alliés, donc plus de 60% du territoire, la grande majorité des centres urbains, et ces 60% du territoire abritent 75% de la population encore résidente en Syrie. une victoire et une fin de guerre que je vais nuancer, bien entendu, dans ma présentation, mais qui pose aujourd'hui au cœur de notre analyse la problématique de la reconstruction que je vais développer autour de quatre points. En quatre niveaux et autour de quatre points. Premièrement, le militaro-sécuritaire. Deuxièmement, l'État. Troisièmement, l'économie. Et quatrièmement, la société. Donc, je commencerai par la reconquête militaire et sécuritaire, qui reste la priorité de Damas et de ses alliés, comme l'a répété très souvent le président Assad à plusieurs reprises depuis 2017, relayé par le président Poutine. La tâche est de reconquérir chaque pouce de notre territoire. C'est une reconquête encore incomplète aujourd'hui, hein, qui augure certainement de nouveaux cycles dans la guerre. On peut certes s'accorder sur la défaite des forces militaires et politiques, civiles et militaires, pardon, de l'opposition, une défaite qui s'est faite en deux temps, août 2013 avec l'attaque chimique sur Damas et de manière quasi concomitante l'émergence de l'État islamique, puis bien sûr à partir de 2015 l'intervention russe. Selon deux modalités, cette défaite, écrasement militaire et accords locaux, comme je l'ai déjà dit, à partir de 2016. Reste aujourd'hui sous le contrôle de divers groupes armés opposés au régime, deux régions que vous pouvez voir en vert, principalement au nord de la Syrie. La première est la province d'Idlib, qui compte environ 3,5 millions d'habitants, dont 1,4 million de déplacés internes, venant de différentes régions syriennes, et cette région compte encore environ 70 000 combattants, avec une force militaire qui est dite dominante, que l'on appelle Hayat Tahrir al-Sham en arabe, et qui est affiliée à Al-Qaïda. La seconde région est la zone d'influence turque, qui est gérée directement par les Turcs, à proximité, donc qui est plutôt en vert pâle sur la carte. Cette région qui est gérée directement par la Turquie est elle-même constituée de deux sous-parties, une partie qui s'appelle Afrin et qui était reprise aux forces kurdes cette année, et une partie qui s'appelle Bouclier de l'Euphrate et qui était reprise à l'État islamique deux ans plus tôt. L'autre territoire qui échappe encore au contrôle du régime, c'est celui des forces kurdes que vous voyez en jaune, qui contrôle militairement environ 25% du territoire avec environ 45 000 combattants relativement disciplinés. Dans les deux cas, les trajectoires de ces groupes armés vont dépendre en grande partie de la politique à la fois de la Turquie et des États-Unis. La Turquie qui soutient des groupes rebelles et qui tente aujourd'hui de fragmenter le groupe allié à Al-Qaïda en vertu d'un accord avec la Russie signé en septembre dernier. Et la politique des États-Unis qui soutient, comme vous le savez, les Kurdes, principalement au niveau militaire. Il est à noter, et je pense que c'est assez clair, que la priorité stratégique de la Turquie, au moins depuis 2015, est vraiment d'empêcher un corridor kurde à sa frontière. Donc vous voyez qu'une grande partie de la frontière syro-turque aujourd'hui est contrôlée du côté syrien par les Kurdes, et qu'une offensive turque contre les Kurdes, telle qu'elle a été annoncée encore la semaine dernière par le président Erdogan, n'a jamais été exclue et ne peut être exclue. Revenons maintenant un petit peu à la situation sécuritaire dans les zones dites sous contrôle militaire du régime. Et rappelons que l'armée, d'une part, les services de sécurité, de l'autre, ont toujours été deux piliers centraux du régime Assad, père et fils. Qu'en est-il aujourd'hui de l'armée syrienne ? Il faut rappeler qu'en 2011, cette armée était paralysée par des décennies de corruption. Elle était peu prête au combat, et qu'elle a été affaiblie par des dislocations d'unités et la désertion de soldats dès 2011, mais qu'elle est aussi devenue, à la faveur du conflit, une plateforme centrale de coordination et de soutien logistique à différents groupes paramilitaires et des milices pro-régime qui se sont multipliées dans le pays aux côtés de milices étrangères, créées principalement et sponsorisées par l'Iran à partir de 2013. Face aux éléments armés sur son territoire, le gouvernement syrien aujourd'hui fait face à au moins deux défis. Le premier défi, c'est que faire de tous ceux qui ont combattu dans les brigades armées de l'opposition. Et le deuxième défi, c'est que faire face à la prolifération des milices étrangères et locales dites pro-régime. Alors par rapport à tous ceux qui ont combattu dans les brigades armées de l'opposition, qu'on appellera pour aller pour de manière simple, les rebelles. Il faut savoir que lorsqu'un territoire est repris par le régime, les rebelles ont eu deux choix jusqu'à maintenant. Soit être déplacés de force, enfin déplacés dans la région d'Idlib, donc envers au nord, ce que beaucoup ont choisi par peur d'être éliminés par les forces gouvernementales, soit de rester sur place, ce qui était de plus en plus le cas au fur et à mesure que la région nord devenait de moins en moins inaccessible. Et dans ce dernier cas, les rebelles sont désarmés de leurs armes lourdes, mais dans leur grande majorité, ils ne retournent pas à la vie civile. Ils sont remobilisés dans des unités de l'armée syrienne ou dans un groupe paramilitaire ou très occasionnellement dans des forces de police locales. Par ailleurs, les Russes ont aussi mis en place, à partir de 2016, une nouvelle force auxiliaire qui s'appelle le 5e régiment pour réintégrer ces anciens rebelles. Et donc, ces rebelles sont intégrés dans des unités et souvent sont forcés à aller combattre. Et ils ont combattu souvent sur des lignes de front contre l'État islamique. Notons que cette démobilisation, réintégration des anciens rebelles dans ces unités paramilitaires ou dans l'armée syrienne ne les protège pas du tout d'être arrêtés, voire assassinés. Et plus largement, il faut savoir que tous les hommes en âge de faire le service militaire, c'est-à-dire de 18 à 42 ans, qu'ils soient anciens rebelles ou simples civils, sont amenés à être enrôlés dans les forces gouvernementales syriennes si, comme c'est le cas dans la grande majorité des zones, la grande majorité des personnes qui vivaient dans les zones de l'opposition, s'ils n'avaient pas rempli leur obligation de service militaire. Le deuxième défi, donc, c'est que faire face à la prolifération des milices pro-régime, dont le nombre est estimé aujourd'hui entre 150 et 200 000 membres. Je dirais qu'il n'y a pas ici une politique, mais au moins deux positions, donc celle des Russes, qui souhaiteraient restructurer l'armée nationale régulière, et celle des Iraniens, qui restent plutôt sur un effort centré sur le soutien aux milices. Entre les deux, que veut le régime syrien ? Il est certain qu'il souhaite regarnir les rangs de son armée, armée régulière qui n'avait plus en 2017 qu'un cinquième de ses capacités initiales, d'où les efforts du régime pour continuer à mobiliser via le service militaire. Mais veut-il réduire vraiment l'influence des milices ? Et si oui, le pourrait-il ? Selon certains spécialistes, beaucoup de ces milices ont été créées par des officiers de l'armée régulière, financées par des proches du régime, et donc seraient à même d'être maîtrisées. Mais il faut aussi se rendre compte que les chefs de ces milices locales, à qui le pouvoir a laissé libre cours à de multiples activités criminelles jusque-là, ont gagné en pouvoir, et leur mise à l'écart s'avère extrêmement compliquée. Le deuxième pilier, à côté de l'armée, ce sont les services de sécurité. Je vais aller très très vite, mais je voudrais dire que ces services de sécurité qui ont été au cœur du verrouillage de la société et qui ont été décrits comme souvent omnipotents n'ont pas empêché le soulèvement en 2011. Pour certains auteurs, aujourd'hui, ces services de sécurité auraient perdu en capacité, notamment en raison qu'ils ont perdu un bon nombre de leurs membres pendant la guerre. Et ils sont aussi concurrencés par d'autres forces, par d'autres acteurs, concurrencés entre guillemets, on pourra y revenir. La police militaire russe, qui est déployée sur une grande partie du territoire, et notamment sur tout le sud du territoire, et des officiers, bien sûr, liés à l'Iran. Pour autant, selon nos entretiens et les témoignages de plusieurs personnes recueillies sur le terrain, ces services de sécurité sont perçus aujourd'hui comme les plus influents, à tout le moins dans les territoires qui ont été reconquis à l'opposition. Et dans ces territoires se réinstalle progressivement un climat de peur, de suspicion, d'autocensure, qui s'explique principalement par la présence de ces services de sécurité. Donc en conclusion de ce premier point, je dirais qu'on reste encore largement dans une logique du tout militaire, avec la mise en œuvre stricte du système de conscription militaire obligatoire, avec de moins en moins d'exceptions, avec la mise en place sur tout le territoire de ce qu'on appelle des branches de mobilisation pour l'armée sur tout le territoire. Et il faut signaler que la conscription militaire obligatoire est l'un des principaux motifs qui est évoqué par les hommes réfugiés syriens dans les pays voisins, notamment au Liban, pour expliquer qu'ils ne reviendront pas en Syrie, mais c'est aussi l'un des principaux motifs qui est invoqué pour ceux qui n'ont aucun lien, qui n'ont eu aucun lien avec l'opposition, pour ceux qui continuent de fuir leur pays jusqu'à aujourd'hui. Ils fuient l'armée et ils fuient le conflit. On se dirige aussi vers la restauration d'un État sécuritaire, avec la poursuite des arrestations, notamment pour les hommes, mais aussi pour toute personne suspectée d'avoir participé à une manifestation. Et dans le même temps, je dirais qu'on est très très loin d'un retour à l'ordre. On est beaucoup plus dans une situation de désordre sécuritaire dans nos nombreuses régions, avec des assassinats et des règlements de comptes dans l'ensemble des régions syriennes qui se sont multipliés au cours des derniers mois, et notamment dans les régions du régime, et qui pourraient s'amplifier encore. La peur d'être arrêté et persécuté d'une part, l'absence de zones sécurisées de l'autre, constitue là aussi un principal frein au retour des réfugiés, du moins pour ceux du Liban. Cette victoire militaire autoproclamée du régime et de ses alliés ne s'est pas encore traduite par une victoire politique. Pour cela, le régime a besoin de montrer à l'extérieur, mais aussi à sa population, qu'il peut reconstruire le pays, à la fois au niveau de ses institutions étatiques et de son économie. Et donc ce sera mon deuxième point vers le rétablissement des institutions étatiques. En préambule, je voudrais revenir sur cette rhétorique que l'on retrouvait beaucoup dès l'arrivée du président Assad fils au pouvoir dans les années 2000, qui était celui du fonctionnement des institutions à la base de la démocratie syrienne, même si ces institutions, comme dans tout autre régime autoritaire, sont conçues dans l'objectif ultime de la survie des élites dirigeantes avant tout, et qu'elles n'ont jamais détenu le moindre pouvoir de décision. Mais de fait, dès le début du soulèvement en 2011, le président Assad a posé le maintien des institutions étatiques comme une priorité pour montrer que le régime était le seul à même de fournir des services de base et pour maintenir donc les Syriens dans un état de dépendance par rapport à son régime. Pour rappel, l'État syrien était et reste le principal employeur du pays. Il est resté fonctionnel pendant tout le conflit dans les régions sous le contrôle des forces militaires gouvernementales, soit dans la plupart des grandes villes, et notamment à Damas, la capitale, où la continuité des institutions n'a cessé d'être mise en scène, avec un parlement réélu en 2012 et en 2016, des remaniements ministériels et une multitude de lois promulguées. Dès l'été 2012, ce monopole a pourtant été concurrencé par l'émergence de structures locales alternatives dans les territoires qui étaient contrôlés par les rebelles, mais aussi dans les territoires contrôlés par les Kurdes, avec l'émergence de conseils locaux, de conseils de gouvernorat, de cours de justice, d'unités de police, d'une défense civile et d'une multitude d'associations humanitaires et de la société civile, qui ont été mis en place pour gérer des hôpitaux, des écoles, des boulangeries, etc. Donc on a eu la formation de systèmes de gouvernance parallèles et alternatifs à l'État. En 2012, on comptait environ 400 comités de coordination à travers la Syrie. En juillet 2015, on comptait encore environ 800 conseils locaux alternatifs à ceux de l'État. Des institutions qui ont été financées en grande partie par l'Occident, mais aussi par des pays du Golfe, et des institutions qui ont été les cibles premières et privilégiées de la répression du régime, qui ont été ensuite les premières structures à être démantelées dès lors que le régime reprenait le contrôle de ces territoires. Si ces structures alternatives ont pu constituer un véritable danger pour le régime entre 2012 et 2015, il convient de relever que l'État syrien, premièrement, a continué à payer une partie des fonctionnaires dans ces territoires, dans ces zones qui échappaient à son contrôle, dans l'objectif, semble-t-il, de maintenir un lien de dépendance de ses fonctionnaires à l'État, que deuxièmement, il a maintenu pendant tout le conflit son monopole sur la délivrance des documents administratifs et civils, et ça c'est quelque chose de très très important. Cet acte de souveraineté, à mon avis, a joué un rôle très important dans la survie du régime, principalement en raison de l'absence de reconnaissance internationale pour les documents qui étaient délivrés parallèlement par les instances de l'opposition, qu'il s'agisse de documents pour se marier, pour voyager, pour acquérir une propriété ou tout simplement pour valider un diplôme. Et que troisièmement, l'État syrien a recentralisé une bonne partie de ses fonctions administratives dans les villes capitales de chaque gouvernorat syrien, où de très nombreux déplacés internes qui venaient des régions tenues par les rebelles trouver refuge pour échapper au bombardement, mais aussi parfois pour avoir accès à de meilleurs services. Donc ces structures alternatives, aujourd'hui, ont pratiquement disparu. Elles n'existent plus que dans quelques régions au nord de la Syrie, donc dans les régions encore tenues par l'opposition ou par les Kurdes, où les Kurdes, on pourrait revenir aussi, mais se sont dotés d'une véritable administration autonome. Que se passe-t-il aujourd'hui dans les zones qui ont été reprises par le régime à l'opposition? À première vue, on assiste à un retour au modèle de gestion des territoires d'avant 2011, avec une priorité pour le gouvernement syrien qui est, dès lors qu'une région est reprise, outre la réouverture des bureaux des services de renseignement, la réouverture des bâtiments officiels arborés du drapeau de la République arabe syrienne, donc administration étatique, gouvernorat, municipalité, et des bureaux des sections du parti Baas, donc qui était le parti qui est le parti dit dominant et leader du dirigeant de la société et de l'État depuis les années 70 jusqu'en 2012. Donc c'est un phénomène, ce phénomène de réouverture des bureaux et des institutions est un phénomène que l'on retrouve de l'Est à Deir ez-Zor, en passant par la route de Damas jusqu'au sud syrien. Il est difficile à ce stade de mesurer si ces institutions resteront des coquilles vides, de simples bâtiments ou bureaux, ou bien si elles vont contribuer à réimposer un contrôle social et politique sur les populations. Mais il est intéressant d'analyser à ce sujet les élections locales qui ont eu lieu en septembre 2018, et nous allons publier en janvier un article, une recherche sur ces élections locales qui ont été organisées donc sur l'ensemble du territoire pratiquement, pour la première fois depuis décembre 2011, mais qui ont eu lieu dans une indifférence et une défiance assez généralisée parmi la population, avec un taux de participation évalué à 25%, mais qui ont été préparées avec grand soin par le gouvernement syrien et ont été élues des listes en très grande majorité, 80-90%, de membres du parti Baas. Et parmi ces membres du parti Baas, ceux qui ont le plus activement défendu le régime au cours de ces dernières années. Aux côtés de ces institutions gouvernementales et souvent en coordination avec elles, on retrouve aussi plusieurs ONG, avec ici deux tendances majeures qui étaient aussi très visibles dans la décennie 2000-2010. D'une part, le retour en force du rôle des associations de charité religieuse, qu'elles soient sunnites ou chrétiennes, au niveau chrétien notamment la jeunesse orthodoxe, qui est très active, pour assurer des services sociaux aux populations. Et d'autre part, le maintien, voire le retour en force de ce que l'on nommait les gongos, donc ces ONG qui étaient dirigées par des proches du pouvoir, comme le Trust Fund dirigé par la Première Dame, ou l'association Boustan dirigée par un cousin du président. Des associations qui ont bénéficié pendant tout le conflit, il faut le rappeler, du soutien des agences des Nations Unies. Et je donnerai simplement un chiffre, en 2015, sur 1,1 milliard du plan d'intervention des Nations Unies pour la Syrie, 900 millions ont été dépensés en aide humanitaire depuis Damas, soit sous le contrôle direct des autorités syriennes et par le biais de ces organisations contrôlées par elles. Dans ce schéma, il reste désormais peu de place aux ONG de la société civile telles qu'elles avaient émergé avec le soulèvement de 2011. Une grande partie est aujourd'hui en exil et l'espace pour l'expression de revendications civiles démocratiques a pratiquement disparu. Est-ce que ces institutions gouvernementales et non gouvernementales ont-elles les moyens aujourd'hui d'assurer des services aux populations et à quelles populations ? Quelle politique de reconstruction se dessine en creux des décisions prises par le gouvernement syrien aujourd'hui ? Et ce sera mon troisième point, qui porte sur économie de guerre et reconstruction et qui s'inspire largement d'un papier de recherche que nous avons publié cette semaine en anglais et qui a été rédigé par un de nos chercheurs, Joseph Daher. Pour mesurer les enjeux et les défis de la reconstruction, il convient de rappeler d'abord en introduction que les politiques de libéralisation économique qui ont été mises en place dans les années 2000 avaient considérablement enrichi une petite couche d'hommes d'affaires affiliés au régime et profité aussi à des investisseurs étrangers, principalement venant de Turquie ou des monarchies du Golfe, et que ces politiques de libéralisation avaient aussi appauvri accentuer les inégalités sociales et appauvrir de très larges secteurs de la société. Je vous donne juste un chiffre tiré de cette étude. En 2007, le pourcentage de Syriens qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté était de 33%, ce qui représentait environ 7 millions de personnes, tandis que 30% des Syriens vivaient juste au-dessus de ce seuil, et une pauvreté donc qui était consacrée principalement dans les zones rurales et néo-rurales. Et donc, comme l'ont évoqué plusieurs auteurs, notamment dans le dernier livre de Farouk Mardambeh, Ziad Majid et Soubah Hadidi, dans la tête de Bachar al-Assad, mais ce ne sont pas du tout les seuls. Cette rupture radicale entre une classe de privilégiés et la masse des laissés pour compte a été une cause majeure du soulèvement de 2011. Alors, ce conflit il a profondément, bien entendu, profondément et durablement transformé l'économie syrienne, et ce à deux niveaux. Premièrement, au niveau des destructions, donc là je ne vais pas non plus vous assommer avec des chiffres, mais simplement dire que le produit intérieur brut est passé de 60 milliards de dollars en 2010 à 12 milliards de dollars en 2016, que les secteurs les plus touchés ont été ceux des hydrocarbures, de la production des hydrocarbures et des mines, des industries manufacturières, du commerce intérieur et de la construction, que le taux de chômage reste relativement élevé. Il faut faire très attention avec les statistiques, bien entendu, mais il était estimé à 55% en 2015. Mais il est important aussi de voir que ces destructions n'ont pas touché toutes les régions de la même manière. Des régions comme Homs, comme la ville de Homs, comme l'est d'Alep, ont été très, très touchées. Homs a été détruit à plus de 60%. Des villes comme Raqqa et Deir ez-Zor ont aussi été détruites sous les bombes de la coalition internationale à plus de 80%, et que dans le même temps, on a eu l'émergence de nouveaux pôles d'investissement économique qui n'ont pas été touchés ou qui ont été beaucoup moins touchés relativement par rapport au reste. C'est principalement la région de Souaïda, donc majorité druze, et toute la région côtière de l'Attaquié et de Tartous, où on a vu un transfert d'entreprises et d'industries et l'augmentation des investissements dans ces régions. Le deuxième niveau, au-delà des destructions, c'est celui de l'exacerbation de pratiques que l'on trouvait avant la guerre, de pratiques mafieuses que l'on trouvait avant la guerre, mais qui se sont considérablement développées dans ce qu'on peut appeler des économies de guerre, et qu'on pourrait qualifier aujourd'hui, pour reprendre l'expression d'une équipe de recherche, Synapse, qui est basée à Beyrouth, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'économie de cannibalisation systématique. Ont été et sont toujours impliqués dans ces économies de guerre, en premier lieu, bien entendu, les acteurs armés de tous bords, qu'il s'agisse des acteurs armés de l'opposition, des groupes d'opposition ou du gouvernement, qui se sont considérablement enrichis, notamment à la faveur des checkpoints. Mais il faut aussi rappeler ici les pillages systématiques qui ont été commis par les forces pro-régime dans des villes qui ont été reconquises, ou encore des opérations de destruction qui ont été commises par certains groupes de combattants de l'opposition qui ont été commises dans certaines villes. Destructions qui ont été d'autant plus facilitées, comme à Alep ou à Homs, par le fait que ces combattants, en fait, n'étaient pas eux-mêmes originaires de la ville, mais venaient des campagnes avoisinantes. Une économie de la prédation dans laquelle, bien entendu, sont impliqués de nouveaux hommes d'affaires qui ont accumulé des richesses très importantes à travers notamment le commerce de biens importés ou le commerce d'un territoire à l'autre, mais une économie de la prédation qui s'implique de très très nombreux acteurs de la société syrienne et qui profite beaucoup aujourd'hui à des officiers de sécurité et aux caisses de l'État, puisque aujourd'hui il faut payer pour tout, il faut payer souvent très cher pour obtenir l'obtention de documents officiels, pour échapper à la conscription militaire obligatoire, et même pour avoir des membres sur un membre disparu ou détenu dans les prisons du régime. Dans ce contexte de guerre, le gouvernement syrien en fait a mis en place de nouvelles lois, des institutions pour préparer la reconstruction. Et il l'a fait très tôt, il l'a fait dès 2012, en créant par exemple un comité de reconstruction sous l'égide du ministère des Affaires locales. Il l'a fait dès 2012 aussi, de manière accélérée depuis 2 ans, en mettant en place toute une série de régulations, de lois et de décrets. Et principalement des mesures d'urbanisme qui autorisent la destruction de zones d'habitat informel et l'expropriation de leurs résidents, qui autorise le gouvernement syrien à potentiellement confisquer des terres si leurs propriétaires ne sont pas en mesure d'apporter les documents prouvant leur titre de propriété. C'est donc la fameuse loi 10 d'avril 2018 qui a pu être comparée à la loi des absents en 1949, professeur Laurence, 1949, la loi des absents donc, qui a été mise en place en Israël en 1949. Et ces mesures d'urbanisme qui touchent au droit au logement, qui touchent à la terre et à la propriété, constituent un souci majeur aujourd'hui pour les réfugiés et les déplacés internes, puisque selon certaines études, notamment le Conseil norvégien pour les réfugiés, 70% au moins de ces réfugiés ne disposeraient pas des documents nécessaires pour revendiquer leur titre de propriété. Des lois aussi qui encouragent des partenariats publics-privés et qui sont de nature à favoriser des hommes d'affaires ou des capitalistes proches du régime à des conditions largement favorables. Mais je dirais qu'à ce stade, on ne peut pas parler d'un plan global de reconstruction à l'échelle du pays, bien entendu, en raison notamment, mais pas seulement, de l'absence notable de financement disponible. On rappellera que les estimations du coût de la reconstruction du pays variaient à la mi-2018 entre 350 et 400 milliards de dollars. Et par comparaison, dans le dernier budget 2019, le gouvernement syrien a alloué 115 millions de dollars à la reconstruction dans son dernier budget, justement. Il est encore trop tôt aussi pour dire quelles orientations prendront réellement ces plans de reconstruction, mais il est quand même intéressant de faire un premier bilan de ces décisions gouvernementales tout au long de la guerre. Et je noterai trois points. Premier point, les priorités du gouvernement répondent d'abord à des intérêts stratégiques du régime et à ceux de ses alliés, la Russie et l'Iran. Donc il faut rappeler que le rôle économique aussi s'est accru pendant le conflit et que ces alliés-là commencent à être récompensés pour leur effort de guerre sous la forme notamment de cessation d'actifs économiques. Et donc, pour répondre à ces intérêts stratégiques, ce qui est reconstruit en priorité aujourd'hui, ce sont d'abord des routes et les principaux axes routiers qui sont d'abord nécessaires à la reprise du commerce intérieur. Mais ce sont aussi les infrastructures comme l'électricité ou l'eau pour répondre aux besoins de certains secteurs, les services et les industries, et relancer des activités économiques dans lesquelles sont impliqués notamment les Russes et les Iraniens. Les entreprises russes étant plutôt aujourd'hui sur l'exploitation des champs de phosphate, de gaz et de pétrole, l'Iran étant plutôt, de manière assez schématique, sur la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures électriques. Deuxième point en corollaire, les efforts prioritaires répondent aussi à des considérations politiques, et je dirais politiques symboliques. C'est la mise en valeur, par exemple, de la rénovation de la vieille ville et du centre historique de la ville d'Alep, de certains quartiers de la ville de Homs et de certains quartiers du Grand Damas. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette rénovation, elle s'inscrit dans la continuité des politiques urbaines qui avaient été décidées depuis longtemps, comme le montrent par exemple très bien les travaux de Thierry Boissière sur Alep ou le livre de Marwa Sabouni sur Homs. Ces politiques urbaines menées dans ces villes avaient participé au déclenchement du soulèvement populaire en 2011 et sont aujourd'hui reprises. C'est la promotion de complexes touristiques, de malls commerciaux et de complexes résidentiels haut de gamme, parfois des tours sur le modèle de Dubaï, qui sont tous gérés par un petit groupe d'affaires enrichi pendant la guerre. C'est aussi le réaménagement de certaines mosquées dans certains lieux emblématiques, comme à Homs ou à Alep, qui sont souvent financées d'ailleurs par des hommes d'affaires tchétchènes. Et pour montrer, pour citer un habitant de Homs, pour montrer que le pouvoir finalement peut reconstruire ce que les terroristes islamistes ont détruit, tout ça entre guillemets, mais je cite un habitant de Homs. Au final, ces efforts de réhabilitation ignorent largement ou mettent au second plan les besoins prioritaires des populations, et notamment dans les anciennes zones contrôlées par l'opposition, où finalement le gouvernement n'apporte aucun soutien direct à la réhabilitation des habitations, des logements qui ont été détruits par la guerre. Cette réhabilitation aujourd'hui se fait au compte-gouttes, elle est le fait d'initiatives individuelles parfois soutenues par certaines ONG internationales, mais que loin d'apporter une aide, le gouvernement, au contraire, demande à ceux qui veulent revenir dans leur maison ou dans leurs usines, leur demande par exemple de payer les factures d'arriérés, d'électricité ou d'eau pendant toutes ces années où ils ont été absents, parfois pendant, depuis ces temps, comme à Homs ou à Alep. Je dirais aussi que les efforts du gouvernement ignorent et mettent aussi au second plan une grande partie des besoins des populations dans ses propres bastions, hein, où une grande partie de la population s'est aussi considérablement affaiblie. En conclusion, je dirais que les politiques que met en place le gouvernement pour l'instant en matière de reconstruction, si elles se confirment, vont certainement approfondir les inégalités socio-économiques qui avaient été l'un des moteurs du soulèvement de 2011, vont certainement approfondir les disparités entre régions, mais aussi entre communautés confessionnelles. Et la question sociale et économique pourrait donc bien devenir ou redevenir à terme explosif, comme d'ailleurs, je pense, dans d'autres pays de la région. Le sentiment qu'il existe une politique de discrimination ou de punition collective, qu'il s'agisse de l'expropriation des terres ou de la fourniture des services publics contre des régions qui s'étaient rebellées contre le pouvoir en 2011, reste là aussi très prégnant. C'est un sentiment très répandu que l'on retrouve chez les réfugiés. Et enfin, les planifications urbaines et les projets immobiliers en cours laissent aussi présager de changements dans la structure sociale et démographique de certaines régions. On pourrait peut-être même parler d'un urbicide dans plusieurs quartiers à proximité immédiate de Damas, Homs et Alep, comme je l'ai déjà dit, qui ont déjà été détruits par la guerre et qui pourraient être rasés pour y casser définitivement d'anciennes solidarités locales. J'en viens à mon dernier point sur les questions de la société pour m'interroger et savoir si une réconciliation entre les Syriens est-elle possible. Cette question est très compliquée, elle nécessite de revenir sur les différents clivages et divisions au sein de cette société syrienne. Une société syrienne qui, je le rappelle, a souvent été oubliée et invisible, hein, comme le rappelle très bien l'écrivain syrien Yassine Haj Saler. Une société sur laquelle, finalement, malgré des travaux de très grande qualité de certains chercheurs, on ne disposait finalement que de peu de données sociologiques avant 2011, en raison des interdits, du monopole du pouvoir sur les statistiques pendant 40 ans, et une société qui était marquée par de très nombreux tabous. Et comme le souligne aussi très bien Franck Mermier dans son introduction à son dernier livre écrit « Libre de Syrie », la révolution puis la tragédie syrienne ont suscité un désir de connaissance de la société syrienne par les Syriens eux-mêmes, Syriens qui nous donnent aujourd'hui à lire leur expérience d'années de brutalité et de violence bien avant 2011. Donc la société syrienne est bien entendu et sans aucun doute aujourd'hui profondément divisée, avec un tissu social profondément détruit, des destructions qui auront des effets, à mon avis, sur plusieurs générations. Un des changements les plus fondamentaux dans ce tissu social du pays, c'est la décimation de la population masculine, en raison, comme je l'ai dit, de la participation au combat et le fait aussi que de très nombreux hommes ont péri dans les combats, sont aujourd'hui en prison, mais aussi en exil. Et donc, il y a forcément déjà des conséquences en termes de déstructuration familiale, mais aussi en termes de marché du travail, etc. Je n'évoquerai ici que quelques grandes lignes de réflexion et de questionnement sur ces divisions actuelles de la société syrienne. Le premier clivage qui s'est manifesté avec force au sein de la société, qui reste profond, même s'il n'a jamais reflété exactement la réalité, c'est celui entre eux, ces Syriens qui sont restés loyalistes et ceux qui ont soutenu la révolution. Et comme je l'ai déjà esquissé auparavant, ce clivage s'est territorialisé. Des quartiers entiers, des villes entières ont été labellisées par le pouvoir comme terroristes et donc ont été à ce titre réprimées, voire décimées. En effet, quelles que soient ses orientations politiques, il suffisait d'avoir une carte d'identité indiquant être originaire de Daraya, dans la banlieue de Damas, du quartier de Bab Amr, dans la ville de Homs, ou de Zabadani, pour être arrêté au checkpoint et être jeté dans les prisons du régime. Il suffisait d'être resté dans ces quartiers, quelle que soit son orientation politique, pour être assiégé et bombardé. D'un autre côté, il suffisait d'habiter Damas ou Latakié, deux régions sous le contrôle des forces gouvernementales pour être considérée comme pro-régime par les groupes armés de l'opposition et donc être éventuellement la cible de tirs de mortier ou de roquettes de la part de ces mêmes groupes armés, nonobstant le fait qu'une majorité des déplacés internes de ces zones rebelles vivaient dans ces mêmes villes. Ceci étant, je dirais qu'après 8 ans d'un conflit sanglant, nombre de Syriens ne s'identifient plus, et parfois depuis longtemps, ni à l'opposition, ou aux oppositions, ni au régime. La plupart des jeunes que nous pouvons rencontrer aujourd'hui à Beyrouth, qu'ils viennent de Damas ou de Tartous, donc des régions supposées loyalistes, n'expriment aucun espoir sur leur pays, et nombreux ne souhaitent qu'une chose, partir en Occident pour suivre leurs études. Un phénomène totalement similaire aujourd'hui parmi les jeunes activistes de l'opposition qui ont très longtemps travaillé dans des associations ou instances proches de l'opposition en Turquie. Ces jeunes pourraient peut-être, à terme, jouer un rôle de réconciliation de leur société, mais à mon avis, plus vraisemblablement, dans les années à venir, ce rôle-là se jouera dans la diaspora plutôt que dans leur propre pays. Le second clivage ou distinction se situe donc entre ces Syriens de l'intérieur et de l'extérieur, et à l'intérieur, entre ceux qui ont été déplacés et ceux qui ont pu rester dans leur maison, mais aussi entre les habitants des villes et les habitants des campagnes. Donc vous connaissez les chiffres, hein, je l'ai déjà dit en introduction, mais plus de 50% de la population est déplacée, avec des estimations tournant autour de 6 millions pour la population des déplacés internes, et pratiquement aujourd'hui la même chose selon les dernières estimations du Haut Commissariat aux réfugiés, 6 millions de réfugiés à l'extérieur. Il faut dire qu'il persiste, bien entendu, des communications quotidiennes entre l'intérieur et l'extérieur, entre les Syriens de l'intérieur et l'extérieur, qu'il continue d'exister une solidarité très forte, notamment des réseaux familiaux, avec un transfert d'argent de l'extérieur à l'intérieur qui a permis en grande partie une certaine résilience, entre guillemets, de la société à l'intérieur. Mais c'est distant, mais il reste quand même que la distance n'a fait que s'agrandir entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. On a pu le voir à partir de l'expérience de la guerre civile libanaise aussi. Comme le rapportait un activiste basé en Turquie qui se rend très très souvent dans le nord de la Syrie, notre société a tellement changé que je ne la reconnais plus. Je reviendrai dans quelques minutes en conclusion sur la question des réfugiés et des déplacés. J'évoquerai simplement une dernière ligne de clivage. Cet exposé n'est absolument pas exhaustif, mais cette ligne de division ou de fracture que sont les tensions confessionnelles et ethniques. Et c'est une question très délicate et sensible. Est compliquée. La question de l'appartenance communautaire était un sujet tabou dans l'espace public avant 2011 en Syrie. Les premiers slogans de la révolution qui portaient sur le peuple syrien et un pour contrer le discours du régime syrien qui se voulait protecteur des minorités face à la menace islamique terroriste dès 2011 montre aussi qu'il y avait un problème par rapport à l'identité, les identités confessionnelles et ethniques. Mais il faut rappeler quand même que ce soulèvement de 2011 ne peut absolument pas être analysé comme celui d'une majorité sunnite contre une minorité alaouite au pouvoir. Comme ailleurs, bien entendu, aucune des communautés syriennes ne peut être appréhendée comme homogène et que sans aucun doute la communauté la plus hétérogène et la communauté sunnite arabe majoritaire, dans laquelle on trouve de très nombreux soutiens en faveur du régime, à commencer par une très grande partie de l'establishment religieux sunnite et des hommes d'affaires, notamment à Damas. Reste que cette communauté sunnite, qui formait selon les estimations plus de 70% de la population, communauté sunnite arabe, et en son sein les classes les plus paupérisées, ont constitué le cœur des mobilisations. Et que le conflit a été marqué de toute évidence par un repli sur les appartenances confessionnelles. La majorité de la communauté alaouite a fait corps autour du régime très tôt, encore une fois, ce qui n'a pas empêché l'adhésion individuelle d'alaouites à la révolution, mais une grande majorité de la communauté a fait corps très tôt, convaincue que son destin dépendait de la survie du régime, puis la militarisation et surtout l'islamisation des groupes armés de l'opposition et encore plus l'émergence de l'État islamique ont fini de convaincre cette majorité des Alaouites que le régime était leur seule protection. Pour autant, il faut aussi reconnaître aujourd'hui que dans cette communauté, il y a énormément de désillusions et de rancœurs dans ces familles qui ont toutes perdu un, deux, voire trois hommes au combat. Il en est de même pour les chrétiens et les kurdes qui se sont aussi repliés chacun sur leur communauté et autour de leur leadership. Ce conflit a été marqué donc par des tensions, par un repli sur des appartenances confessionnelles, sur des tensions et des assassinats sectaires, notamment dans la région de Homs, entre des éléments des communautés sunnites et alaouites qui y vivent, ou aussi dans la région d'Alep, entre les kurdes et sunnites arabes. Mais peut-être est-ce à partir de mon expérience aussi libanaise, il me semble qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant de massacres à très grande échelle ou sur une base purement sectaire, confessionnelle ou ethnique, ce qui n'exclut absolument pas que dans les années à venir, de tels cycles de vengeance peuvent arriver. Enfin, je dirais qu'il y a eu des changements aussi sur une base ethnique et confessionnelle qui ont eu lieu, hein, même s'ils restent là aussi relativement limités. Mais c'est la région de Afrin, par exemple, qui était peuplée principalement de populations kurdes, qui ont été déplacées avec l'intervention de la Turquie. Ce sont des échanges de populations entre certaines petites villes chiites dans la région de Idlib et d'autres régions sunnites. Mais principalement, ces changements-là se situent dans la région de Homs, hein, qui était multiconfessionnelle et qui se reconstruit aujourd'hui en quartier plutôt monoconfessionnel. Voilà, je dirais que ces changements sur une base ethnique et confessionnelle, qui restent encore relativement limités, pourraient être confortés et pourraient devenir beaucoup plus importants selon le fait que les déplacés internes et les réfugiés, justement, pourront ou non revenir dans leur région d'origine et s'ils pourront le faire de manière libre et avec des garanties. Donc, en conclusion, il me reste encore cinq petites minutes. En conclusion, puisque le professeur Laurence m'avait demandé aussi peut-être d'intervenir un peu plus sur les réfugiés, je dirais que parmi les questions qui risquent de rendre impossible toute réelle réconciliation, il y a bien entendu la question du retour des déplacés internes et celle des réfugiés, à côté d'autres questions centrales que je n'ai pas abordées ici, par exemple la question des disparus et des détenus. Aujourd'hui, nous avons à peu près 80 000 personnes dont le sort est documenté, et qui appartiennent à cette catégorie disparus et détenus. La question, bien entendu, de l'impunité des crimes de guerre. Mais je reviendrai en conclusion sur ce retour des déplacés internes et des réfugiés. Donc, actuellement, c'est plutôt très peu de personnes s'intéressent au sort des déplacés internes, alors que c'est une question majeure. Et beaucoup de personnes s'intéressent, notamment en Europe, bien entendu, mais aussi dans les pays voisins, le Liban, la Jordanie et la Turquie, à la question du retour des réfugiés qui est posée dans le débat public, avec de fortes pressions pour encourager, voire forcer à ce retour. Alors, les Nations Unies parlent d'un retour volontaire, hein. C'est un concept qui, à mon avis, mérite d'être interrogé. On a aussi un activisme russe très, très important sur la question du retour depuis cet été. La diplomatie russe souhaite promouvoir le retour, notamment depuis les pays voisins, ce qui est, selon mon analyse, une carte diplomatique pour essayer de négocier avec les Européens leur financement de la reconstruction. Vous financez la reconstruction, en contrepartie, nous assurons un retour des réfugiés. Le régime syrien lui-même a un narratif qui encourage aujourd'hui au retour, mais il faut bien voir qu'un retour massif des réfugiés serait pour lui un trop grand fardeau économique et social, et qu'il en est certainement conscient, et que s'il permet le retour de quelques centaines, pour le moment de quelques milliers, mais c'est vraiment, les chiffres là aussi sont très difficiles à vérifier, il le fait sur la base d'une sélection et sur la base de critères qui sont exclusivement sécuritaires, alors que ce même régime, s'il pensait aussi en termes de reconstruction économique, il a aussi besoin d'une main-d'œuvre mais il préfère aujourd'hui sacrifier et mettre en place une sélection qui est beaucoup plus sur des critères sécuritaires. Il est vrai qu'il y a de très très nombreux Syriens qui souhaitent rentrer chez eux, hein, dans leur lieu d'origine, en raison du coût de la vie, en raison des conditions de vie souvent terribles dans les pays voisins, notamment au Liban, mais aussi dans certaines parties de Turquie et de Jordanie. Et comme j'ai essayé de le montrer aujourd'hui, cette question ne peut pas être pensée uniquement à partir des pays d'accueil. Le retour ou le non-retour me semble surdéterminé par les dynamiques de l'intérieur. Et nous avons vu que celle-ci reste largement défavorable ou perçue en tant que telle par les réfugiés eux-mêmes. Bien entendu, il faudrait affiner l'analyse en décomposant cette catégorie réfugiée en plusieurs sous-ensembles pour tenir compte de l'hétérogénéité. Et cela dépend bien entendu de la région d'origine. Ça dépend aussi de la position de ces mêmes réfugiés par rapport au régime. Il est évident que toute cette catégorie d'activistes politiques, humanitaires, qui s'est mobilisé dans les régions de l'opposition, tout ce leadership civil qui a émergé depuis 2011 est aujourd'hui en exil quand il n'a pas été décimé, et certainement il n'y a pas de retour possible pour cette catégorie-là. Voilà, donc en conclusion, je dirais que les perspectives sont sombres, que tous les problèmes qui ont amené au mouvement de 2011 se sont certainement exacerbés, la question sociale et économique, la demande de liberté aussi, et qu'en même temps, on a une destruction telle de la société aujourd'hui, avec un retour dans plusieurs régions d'un mur de la peur, qu'il me semble qu'aucun mouvement réformiste ne devrait pouvoir voir le jour avant au moins une génération, si on est optimiste, en tout cas à l'intérieur de la Syrie. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci Agnès. Vous avez pu voir combien cet exposé est nourri de données de première main qui sont absolument exceptionnelles, puisque vous ne trouvez pas en général ces informations dans notre presse. Ce matin, j'ai vu une dépêche, une déclaration de Metsoura, disant 540 000 morts dans la guerre syrienne et pas 360 000. Alors, comme c'était une dépêche qui était en sa faveur, peut-être qu'il dit d'avancer le chiffre. Stéphane, l'homme de l'ONU.
Ah, oui, d'accord.
En tout cas, si on prend les sources de l'OSDH, dont je ne connais pas du tout la fiabilité, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, on est à 360 000, et dans lequel je crois qu'il y a au moins 100 000 combattants des forces du régime qui sont comptabilisés dans ces sources. Ce qui veut dire que la ponction humaine à l'intérieur même des forces qui défendent de gré ou de force, d'ailleurs, le régime a été absolument considérable. Et puis là, on est dans des échelles totalement différentes de la guerre du Liban, bon, qui a duré une quinzaine d'années et qui n'avait fait, entre guillemets, que 120 ou 130 000 morts en une quinzaine d'années. Tandis que là, on est, même si les populations sont beaucoup plus importantes, les destructions sont beaucoup plus intenses. Et surtout, indépendamment des destructions matérielles, qui sont évidemment considérables, il y a une destruction humaine qui est terrible. Les récits qu'on a sur les réfugiés et les souffrances, en particulier les femmes, sont absolument effrayants. Et on se demande justement comment des générations pourront se reconstruire après l'ampleur des épreuves. Alors, l'expérience de la guerre du Liban montrait aussi que ce n'était pas durant la guerre elle-même que l'effondrement moral se produisait, c'était après. Il y a eu au Liban, après la fin du conflit, un effondrement psychologique d'une grande partie de la population, parce que comme la tension de la survie n'existait plus, à ce moment-là, l'ampleur des chocs psychologiques ont été enregistrés. Alors, sur l'avenir aussi, je crois qu'il faut... les déplacés intérieurs, au Liban, on a connu ça, mais au moins, on avait des financements qui finançaient le retour des gens, c'est-à-dire des gens qui avaient occupé les maisons d'un autre groupe, rendraient les maisons parce qu'on leur offrait d'autres logements ou des financements pour en avoir. Donc, ça s'est fait en quelques années, mais il y avait un financement international absolument considérable pour gérer ça au Liban, qui est absolument impensable pour la Syrie, puisque les dimensions ne sont pas du tout les mêmes. Et puis, il y a donc la question des réfugiés, qui est aussi une autre question à nous, puisque les réfugiés syriens ont constitué un choc terrible pour les sociétés européennes, il faut le dire, non pas qu'elles ont fait des dégâts en Europe, mais qu'elles ont été utilisées ou provoquées des tensions internes extrêmement fortes dans l'ensemble des sociétés européennes. Et donc il faut distinguer ceux qui ont pu arriver en Europe et avoir un statut légal en Europe, éventuellement un peu en Amérique du Nord, mais surtout en Europe, je crois qu'on peut calculer de l'ordre d'un million à peu près, et qui là sont par définition des gens qui vont rester. C'est clair, il n'y aura pas de retour, mais en revanche, ils joueront un rôle dans l'avenir syrien, à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, puisqu'ils auront été éduqués, élevés dans une autre société, tout en ayant leur héritage. On a vu ça, pas tellement sur la diaspora libanaise, parce que de toute façon, les Libanais vivaient en diaspora depuis longtemps, mais on a vu ça en Iran. Le rôle aujourd'hui des centaines de milliers d'exilés politiques iraniens après la révolution de 79, maintenant il y a deux générations, et cela joue quand même un rôle aussi sur la scène politique iranienne et internationale. Et puis celle qui, alors là, qui pèse sur les trois pays voisins. Et là, évidemment, les tensions sont très fortes, en particulier pour la Jordanie et le Liban, qui sont à bout de souffle dans la gestion des populations de réfugiés. Et la Turquie, qui a réussi à la faire mieux financer par l'Europe, d'une part, en faisant un chantage. Si vous voulez que les gens ne partent pas vers l'Europe en bateau, financer. Et où il y a une partie de stratégie, semble-t-il, soit de réinstallation dans les zones qui sont plus ou moins contrôlées par l'armée turque, ou de naturalisation d'une partie de ces réfugiés par le régime turc, parce que ça pourrait servir ensuite éventuellement de base électorale pour le parti d'Erdogan en Turquie. En tout cas, c'est ce qu'on accuse. Je ne sais pas quelles sont les données réelles. Et de l'autre côté, on parle aussi d'installation d'Afghans, d'Iraniens... en Syrie même, prenant les dépouilles des populations expulsées. Moi, je vais entendre constamment en parler, mais je n'ai pas de données numériques sur ces points. Mais en tout cas, il y a évidemment des transformations démographiques considérables, sans parler aussi du désastre éducatif, puisque vous avez des millions d'enfants qui n'ont pas eu d'enseignement du tout, donc une hausse de l'analphabétisme qui est absolument considérable, même si c'était déjà pas très brillant avant. Ça prend des dimensions. Puis vous avez même des gens qui n'ont plus d'identité du tout, puisque la stratégie, par exemple, au Liban a été de refuser d'enregistrer les naissances dans les populations de réfugiés. Donc, il y a des gens qui n'ont plus du tout d'état civil et qui vont vivre dans les décennies à venir dans ce statut d'absence d'état civil. Tu as des informations sur tout cela ?
Non, je vais peut-être juste revenir sur les deux points que tu as évoqués à la fin sur la politique de la Turquie. La politique de réinstallation de certains réfugiés dans les zones sous contrôle turc, donc qui correspondent principalement à cette zone en vert pâle, elle reste quand même relativement limitée aujourd'hui encore. Hein. Effectivement, il y a eu, on a parlé de 40 000 personnes, de retour de 40 000 personnes qui, par rapport aux 3,5 millions de réfugiés enregistrés en Turquie aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Et c'est une zone qui reste encore peu sûre sécuritairement, puisqu'on est encore dans la perspective de savoir s'il va y avoir une offensive contre les forces kurdes. Par contre, la politique de naturalisation, effectivement, a commencé il y a déjà 2-3 ans. Alors, effectivement, il y a eu cette accusation faite en disant naturalisation pour avoir une base électorale. Je pense qu'il est important de voir que la Turquie a établi des catégories prioritaires pour donner cette naturalisation. Il s'agissait principalement des enseignants syriens, de tous les cadres, des médecins et des ingénieurs, mais aussi de très nombreux militants connus ou moins connus qui étaient dans les instances de l'opposition syrienne. Il faut bien entendu rappeler que la Turquie a été un des principaux soutiens de ces instances-là, dont les sièges ont été et restent en Turquie aujourd'hui. Et donc, c'est, à mon avis, c'est plus large que simplement une base électorale. Selon certains spécialistes de la Turquie, le vote des Syriens lors des dernières élections en Turquie aurait compté principalement pour une seule province, celle, si mes souvenirs sont bons, du Hatay. Mais c'est pas quelque chose qui peut avoir des conséquences sur l'ensemble du territoire turc.
Le Hatay, comme vous le savez, puisque je l'ai évoqué il y a quelques semaines, c'est l'ancien Sanjak d'Alexandrette. Et que de toute façon, il y avait déjà une population arabe dans le Hatay, qui est soi-disant le pays des Hittites, puisque les Hittites sont les ancêtres des Turcs, c'est bien connu.
Voilà, sur la question des réfugiés au Liban, effectivement, les Nations Unies ont arrêté en fait, d'enregistrer les réfugiés à partir de 2015 à la demande du gouvernement libanais. Et donc c'est à partir de 2015 en fait que l'ensemble de ces des nouvelles naissances n'est plus enregistré et va donner lieu à des problèmes très très importants. Le désastre éducatif, je n'ai plus les chiffres en tête, mais effectivement que ce soit à l'intérieur de la Syrie ou parmi la population de réfugiés, c'est un désastre. Il faut souligner que au-delà du fait que de très très nombreux enfants n'ont pas accès à l'école, ceux qui ont eu accès pendant toutes ces années de guerre, comme le rappelle très bien Jihad Yazigi ici présent, il y a eu aussi plusieurs curriculums qui ont été mis en place à la fois à l'intérieur de la Syrie. On a un curriculum qui est imposé dans les régions kurdes, on a un curriculum qui reste dans les régions du régime, on a aussi eu des curriculums différents dans les différentes zones de l'opposition. Donc là aussi, c'est quelque chose qui pour l'avenir risque de poser des problèmes. Donc effectivement, il y a un désastre éducatif sur plusieurs régions, à mon avis, sur plusieurs années, et une absence importante, notamment au Liban, par exemple. Le gouvernement libanais refuse de reconnaître, bien entendu, et empêche souvent de plus en plus ce qu'on a appelé tout le secteur informel de l'éducation pour les Syriens, qui était tenu et géré en grande partie par des ONG. Un dernier petit point sur les chiffres des morts. Je voudrais simplement dire que les Nations Unies ont arrêté de compter depuis longtemps, puisque le chiffre de 300 000 tués, si ma mémoire est bonne, remonte déjà à 2015-2016. Nous sommes fin 2018, donc qu'aujourd'hui on ait une actualisation à 540 000, pour moi, n'est pas du tout une surprise.